Vous écoutez France Culture.
Les midi et demi sur France Culture, c'est le temps des infos. Et le journal de la rédaction vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'Argentine en défaut de paiement, les négociations sur sa dette avec des fonds spéculatifs n'ont pas abouti. Nous analyserons les conséquences pour le pays avec Lucie Barbarin. Le chômage continue de baisser dans la zone euro, il atteint 11,5%. Nous ferons le point avec Jean-Marc Chardon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie à dédommager les anciens actionnaires de Yukos. L'arrêt de la CEDH suit de peu la décision sévère de la Cour d'arbitrage de La Haye. Nous appellerons Caroline Larsson à Moscou. Le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité d'une dissolution de la Ligue de défense juive, groupe radical et violent. Quid des organisations palestiniennes qui ont commis des violences contre des synagogues, s'interroge le CRIF. Nous entendrons son président Roger Kukierman. Mais d'abord, nous allons en Israël, où 16 000 réservistes supplémentaires sont mobilisés pour participer à l'opération Bordure protectrice. Ce matin, Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa détermination, assurant que l'armée continuerait de détruire les tunnels creusés par des combattants du Hamas, une tâche importante dans l'intérêt de la sécurité d'Israël, a souligné le Premier ministre. Selon les derniers bilans dont nous disposons, l'offensive israélienne aurait entraîné la mort de 1370 Palestiniens, surtout des civils, et l'armée israélienne compte 56 morts, son bilan le plus lourd depuis la guerre contre le Hezbollah au Liban en 2006. Nous retrouvons Ludovic Piétenu à Jérusalem. Bonjour Ludovic.
Bonjour Aurélie.
Alors avec cet envoi de nouveaux réservistes, on peut penser que l'opération terrestre est loin de s'arrêter.
Oui, leur déploiement commence dès aujourd'hui. Au total, les mobilisés sur ce front représentent désormais plus de 10% de la population israélienne. Cette guerre s'installe. Israël en est au 24e jour, plus de 3 semaines. 56 morts dans ses rangs, 5 fois plus que lors de la précédente incursion terrestre dans la bande de Gaza, l'opération Plomb durci en 2009. Et tout cela malgré une force de frappe, un équipement réputé moderne. Elle éprouve en face d'elle une très grande résistance. Les soldats ont besoin de respirer un peu, à expliqué à un gradé israélien ce matin. Par ailleurs, un accord a été trouvé. Les États-Unis vont réapprovisionner en munitions l'armée israélienne. C'est la preuve que s'amorce une campagne longue, comme l'avait annoncé dès lundi soir Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui confirme aujourd'hui « Nous n'accepterons aucun cessez-le-feu qui empêcherait à l'armée d'atteindre son objectif principal, la destruction de tous les tunnels sous sa frontière. La trêve est donc largement secondaire dans son esprit. » Après 48 heures de frappe très intensive sur Gaza et un bilan humain qui monte en flèche, vous l'avez dit, plus de 1364 morts. L'armée annonce qu'elle s'attaque en ce moment à de nouvelles zones où elle n'opérait pas jusqu'à présent. L'avancée des chars et de l'infanterie s'accompagne donc de très lourdes frappes aériennes en ce moment, au nord comme au sud de l'enclave palestinienne.
Ludovic Piétenu en direct de Jérusalem. En écho au conflit israélo-palestinien, plusieurs manifestations sont organisées en France aujourd'hui. À Paris, il y aura d'un côté un rassemblement de soutien à Israël et de l'autre un cortège pro-palestinien. Suite aux affrontements de la rue de la Roquette le 13 juillet, le ministère de l'Intérieur envisage d'interdire la Ligue de défense juive, un groupuscule qui se donne pour mission de défendre les juifs. C'est le journal Libération qui a révélé cette information qui vous a été confirmée officiellement, Clémence Fuléda.
Oui, effectivement, les services du ministère de l'Intérieur étudient le dossier. Un examen à la demande de Bernard Cazeneuve. La semaine dernière, le ministre avait jugé la LDJ dans l'excès et dans des actes qui peuvent être répréhensibles et qui doivent être condamnés. Cette déclaration faisait suite aux affrontements qui ont lieu entre des manifestants pro-palestiniens et des membres de la LDJ en marge de rassemblements en soutien à Gaza. Alors la LDJ, elle se présente comme une ligue d'autodéfense de la communauté juive. Elle a été créée en 2001 et compte une centaine de membres. Ce groupe s'inspire de la Jewish Defense League, un mouvement qualifié par le FBI de terroriste. Ses détracteurs considèrent d'ailleurs que c'est une milice. Certains disent même que c'est le bras armé du Conseil représentatif des institutions juives de France, ce que réfute le président du CRIF, Roger Kukierman.
C'est une organisation dont le CRIF ne partage ni l'idéologie ni les méthodes. Nous avons 70 associations membres du CRIF. Le LDJ n'en fait pas partie. Nous n'avons jamais souhaité un quelconque rapprochement. Je ne connais même pas ses dirigeants. Donc le gouvernement décide des mesures à son égard. Ça ne me concerne pas personnellement.
On saura dans les prochains jours si des mesures vont être prises, mais ce n'est pas la première fois que le ministère se penche sur la LDJ. Jusqu'à présent, il ne l'a jamais dissoute. Il faut dire que c'est compliqué, car il faut prouver que le groupe est bien un groupe de combat et qu'il provoque à la haine ou à la violence pour motif ethnique ou religieux. Encore plus difficile quand la LDJ s'efforce de montrer un visage le plus lisse possible depuis plusieurs années.
Clémence Fuleda. L'Ukraine suspend son offensive dans l'Est. Les autorités ont pris cette décision pour faciliter l'accès des experts internationaux au site où le Boeing de la Malaysia Airlines s'est écrasé le 17 juillet. Les experts néerlandais et australiens avaient dû rebrousser chemin à plusieurs reprises. Par ailleurs, le Parlement ukrainien rejette la démission d'Arseniy Yatsenyuk. Le Premier ministre avait proposé de démissionner après la dissolution de la coalition gouvernementale au Parlement. Eh bien, les députés ont refusé son départ de peur que le pays ne se retrouve plongé dans une nouvelle crise politique. L'addition est encore un peu plus salée pour la Russie. Lundi, la Cour d'arbitrage de La Haye condamnait Moscou à verser 50 milliards de dollars d'indemnités aux ex-actionnaires de Yukos. Ce matin, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu son arrêt dans l'affaire opposant l'État russe aux anciens actionnaires du groupe pétrolier. Et elle ordonne à la Russie de verser près d'€1,9 milliard au titre de dédommagement pour des irrégularités dans la procédure fiscale intentée contre la société en 2000. On retrouve Caroline Larson à Moscou.
Oui, il y a 1,86 milliard d'euros de plus à verser pour l'État russe. C'est certes une condamnation supplémentaire, mais c'est bien moins que les 80 milliards d'euros exigés par les anciens actionnaires de Yukos devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le jugement intervient 3 jours après celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui a ordonné au gouvernement russe de payer 37 milliards d'euros à un groupe d'actionnaires de Yukos. L'arrêt de la Cour de Strasbourg, qui ne porte que sur les indemnités dues aux ayants droit du groupe pétrolier, fait suite à un premier jugement qui leur avait partiellement donné gain de cause le 20 septembre 2011. La Cour d'arbitrage de La Haye avait conclu au caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à la condamnation de l'entreprise pour fraude fiscale. Elle avait également jugé disproportionnée et contraire aux droits de propriété les mesures de recouvrement qui lui avaient été imposées après sa condamnation. Rien ne permettait toutefois, selon elle, de conclure à la volonté du gouvernement russe de détruire Yukos et son PDG, Mikhail Khodorkovsky, qui était alors l'un des hommes les plus riches de Russie, et un soutien des mouvements d'opposition à Vladimir Poutine. C'est une petite victoire pour Moscou.
Le visa russe d'Edward Snowden expire aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera renouvelé ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur des révélations sur l'ampleur de la surveillance de la NSA ne peut pas retourner sur le sol américain puisqu'il y a été inculpé d'espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Snowden peut redouter un sort proche de celui de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks vit reclus à l'ambassade de l'Équateur à Londres. La justice suédoise demande son arrestation pour agression sexuelle, mais l'Australien continue à se battre et à publier des documents. À Londres, Eric Albert.
2 ans, 1 mois et 12 jours que Julian Assange est à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Vivant dans une seule pièce, ne sortant jamais dehors, l'Australien reconnaît que la lumière du jour lui manque. Ses affaires judiciaires sont bloquées. La justice suédoise veut son extradition pour l'interroger sur 2 cas d'agression sexuelle. Et il y a 2 semaines, elle a confirmé sa position, demandant une nouvelle fois son arrestation. Julian Assange, de son côté, nie en bloc les accusations et il se dit déterminé à continuer son combat. Depuis son ambassade, il reçoit régulièrement les médias du monde entier et aussi de nombreuses personnalités. Récemment, Eric Cantona était de passage, Eva Joly est allée le voir, ainsi qu'Oliver Stone. Quant à Wikileaks, le site internet pour lanceurs d'alerte qu'il a créé, il existe toujours. Il a bien sûr perdu beaucoup d'ampleur, il a beaucoup souffert financièrement, mais il a récemment publié des documents sur une affaire de corruption en Australie. Et puis l'an dernier, Wikileaks est aussi venu en aide à Edward Snowden. Une de ses employées a arrangé son départ de Hong Kong pour se réfugier en Russie. Julian Assange est donc plus que jamais déterminé à poursuivre ses activités de lanceur d'alerte.
L'état d'urgence décrété au Sierra Leone, une mesure prise pour faire face à l'épidémie de virus Ebola qui a fait déjà 224 morts dans le pays. Et le président Koroma renonce à son voyage à Washington la semaine prochaine pour le sommet Afrique-États-Unis. Pour la 2e fois en 13 ans, l'Argentine se retrouve en défaut de paiement. Elle ne peut pas verser les 539 millions de dollars réclamés par 2 de ses créanciers, des fonds spéculatifs spécialisés dans le rachat de dettes à risque. Et les négociations très intenses de ces derniers jours n'ont pas permis de parvenir à un accord. Bonjour Lucie Barbarin.
Bonjour.
Cette situation rappelle aux Argentins de bien mauvais souvenirs, les comptes bancaires des particuliers gelés, des milliers de gens jetés dans la rue et des manifestations qui avaient dégénéré en émeutes. Mais cette fois, la crise est moins sévère qu'en 2001. Hein, Lucie.
D'abord parce que ce défaut de paiement, comme il se doit de dire, même si la présidente argentine Cristina Kirchner dédramatise, concerne un petit montant, 400 millions d'euros, bloqués sur le compte de la Banque centrale argentine à New York. L'Argentine voulait que le juge américain libère cet argent pour rembourser d'autres créanciers et il s'agissait de négocier un nouveau délai, 2015, pour rembourser les fameux fonds vautours. L'Argentine peut donc techniquement payer sa dette. Ce n'est pas une faillite retentissante comme en 2001. Mais avec ce défaut de paiement, on peut craindre aujourd'hui un effet boule de neige, la chute en cascade d'une série de financements, comme l'explique David Benamou, consultant chez Axiom Alternative Investment.
Le défaut de paiement en tant que tel de l'Argentine peut avoir des conséquences sur les entités qui dépendent de l'État, les entités étatiques, qui exercent des activités industrielles et commerciales, pour lesquelles le défaut de l'entité mère peut évidemment créer des problèmes de financement, des problèmes opérationnels.
Des entreprises privées aussi qui vont avoir du mal à emprunter sur les marchés, à emprunter de l'argent.
Ça aura un effet plutôt effectivement psychologique. Si on recherche un autre effet technique, on peut penser aux banques. Dans la notation des banques, il y a toujours une composante qui est liée à la notation de l'État dans lequel elle se trouve. Le défaut de l'Argentine pourrait entraîner une dégradation de certaines banques argentines.
Et donc une crise bancaire en perspective, les Argentins qui retirent leur épargne par peur. Un scénario plus technique, psychologique, moins spectaculaire qu'en 2001, mais c'est l'Argentin de la rue qui en sera la vraie victime. C'est ce qu'a reconnu lui-même le médiateur américain Daniel Pollack après l'échec des négociations cette nuit. Puisqu'on le comprend bien, une chute de financement pourrait provoquer à moyen terme une série de fermetures d'entreprises et donc de licenciements.
L'embellie se confirme dans la zone euro. Le chômage est descendu en juin à 11,5%, son niveau le plus bas depuis septembre 2012. Ce sont les chiffres de l'Office européen de statistique Eurostat. Pour l'ensemble de la zone de l'Union européenne, le taux de chômage est de 10,2%, ce qui représente 25 millions de personnes. Mais Jean-Marc Chardon, ces chiffres masquent d'importantes disparités.
D'importantes disparités toujours entre les pays les plus exposés au chômage. L'écart reste fort entre l'Allemagne à 6,5% et l'Espagne à 24,5%. L'écart est presque de 1 à 4. C'est considérable, mais en même temps, on distingue bien cette fois le début d'une correction pour plusieurs pays. C'est net au Portugal, en Espagne, en Irlande, où le chômage a reculé de 2 points au plus. Et c'est dans la catégorie des jeunes que le recul a été le plus sensible. Ce n'est pas encore un net reflux, mais ça en prend tout de même l'allure. En fait, partout où le chômage diminue, c'est chez les jeunes que le mouvement est le plus marqué, deux fois plus rapide, suivant certains États. Alors, il y a pourtant quelques exceptions notables. L'Italie, où c'est l'inverse, forte augmentation chez les jeunes et dégradation continue du marché de l'emploi. C'est aussi révélateur d'une économie qui a du mal à sortir de la récession. Au contraire de la France, qui elle réussit à faire baisser le chômage jeune de 2,5 points, mais pas suffisamment pour faire reculer la courbe globale. C'est aussi le signe d'une certaine stagnation économique. La France, dont le taux général oscille dans la moyenne européenne, elle représente un virage économique incertain et un visage aussi incertain qui se reflète sur son marché de l'emploi.
Les patrons des TPE français, les très petites entreprises, sont très pessimistes sur leur sort. C'est ce qu'indique le baromètre trimestriel des TPE réalisé par l'IFOP. Alors Laurent Vatrin, essayons d'éviter l'avalanche des chiffres et dites-nous comment on peut interpréter ce baromètre.
Alors, des petits rappels pour comprendre déjà de quoi on parle. La TPE, c'est l'entreprise de moins de 20 salariés et on ne parle pas ici des auto-entrepreneurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des TPE. Combien de TPE en France ? 2 400 000. Les 4/5 de ces entreprises n'ont aucun salarié. Ce sont donc essentiellement des patrons solitaires et ces petits patrons entre guillemets, on les trouve dans tous les secteurs d'activité et dans des formes juridiques d'entreprises très variées. Leur situation et leur ressenti permettent donc de mesurer à la fois la vitalité de l'économie dans son ensemble et la complexité de l'administration.
Et donc venons-en à ce baromètre, que nous dit ce sondage exactement ?
Deux choses importantes, d'abord que le moral des TPE n'a jamais été aussi bas depuis que ce baromètre existe, ça fait 14 ans, sur un millier de sondés, même pas 2 sur 10 estiment le climat propice aux affaires en général, et seulement un tiers se dit confiant dans l'avenir de sa propre activité. Deuxièmement, la situation financière des TPE se dégrade, problème de clientèle pour presque tout le monde, baisse des ventes en général, difficulté à payer des fournisseurs pour les TPE qui en ont, concurrence parfois des auto-entrepreneurs dont le régime fiscal est plus favorable. Résultat, l'emploi baisse dans les TPE, alors que si la croissance française était vraiment de retour, eh bien elle serait les premières à embaucher, comme on l'a vu jusqu'en 2008-2009. Et enfin, dernier symptôme de la maladie des très petits entrepreneurs, la perte de confiance dans le politique. 16% seulement se disent que le gouvernement les comprend.
Laurent Vatrin, les ménages français ont un peu plus consommé en juin que le mois précédent. Le volume des achats de biens a progressé de 0,9%, mais ce chiffre n'est pas très significatif. Il s'explique surtout par les soldes et par la consommation de carburant, autrement dit des dépenses classiques en cette période estivale. L'Élysée fait part de sa profonde tristesse. Le conseiller diplomatique de François Hollande, Paul-Jean Ortiz, a succombé à un cancer. Il avait 57 ans. Le temps sera ensoleillé cet après-midi. De rares averses persistent sur les Alpes frontalières et les Pyrénées. Il fera jusqu'à 21 degrés à Brest, 27 à Paris et Lyon, 32 à Nîmes. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun. Je vous retrouve à 18h.